Je voudrais, en introduction, là aussi, saluer et remercier à la fois Madame les préfets et sous-préfets successifs, hein, Madame le maire, pour la totale neutralité que nous avons, dans laquelle nous avons pu conduire ce travail. Travail qui va nous amener à dire des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais que notre mission bénévole nous permet effectivement de dire aujourd'hui. Bon, alors bien sûr, hein, ce rapport traduit finalement la perception que nous, observateurs, je préfère dire observateurs que sages, parce que je ne sais pas si on est très sages, mais dans tous les cas, la perception que nous avons et le regard que nous pouvons porter aujourd'hui sur cette problématique de Lourdes. Alors, bien entendu, hein, ce regard, y compris ces pistes, peuvent être contestées, mais ce qui nous paraît, nous, essentiel dans ce travail, c'est que tout cela permette véritablement de construire un projet collectif, parce que, sans doute, c'est ce que je vous dirai après, s'il n'y a pas la construction d'un projet collectif, je pense que nous pouvons prendre un café ensemble et puis repartir à l'autre. Donc là, le caractère très collectif de la prise en compte de cette problématique est essentiel. Essentiel parce qu'il faut véritablement, je n'ai pas hésité à employer le mot de résilience pour la ville de Lourdes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, toutes et tous ici connaissent des problèmes, mais là, vous avez une chance extraordinaire, c'est que cette ville, ce territoire, possède des atouts. Et donc, il faut maintenant aller capitaliser sur ces atouts. Donc, je vais tout de même revenir, même si ça avait fait l'objet d'une présentation, mais il a été enrichi au fur et à mesure où nous avons continué à travailler, revenir sur le diagnostic parce que c'est tout de même à partir de là que l'on peut dégager un certain nombre de pistes. Donc c'est vrai que la première chose qui nous a marqué, c'est cette histoire lourdaise d'une ville qui finalement s'est refermée pour des raisons qui s'expliquent et qu'on aurait oublié ailleurs, hein, qu'à Lourdes. Le fait qu'effectivement, il y a eu une sorte de rente provoquée par ce qui s'est passé autour des sanctuaires, autour du RAC. Hein. Et donc, derrière ça, on a perçu une stratégie, donc un appel de cueillette, disons plutôt une stratégie, moi je fais un peu de rente. Et donc, cette stratégie, on la retrouve ailleurs. Je suis venu dans une ville dans laquelle on me dit tu as la rente de l'aéronautique. Donc, effectivement, on a aussi développé un certain nombre de choses un peu fermées parce que nous avions cette rente. Et donc, il semble aujourd'hui, effectivement, nécessaire d'ouvrir parce que ce dispositif a fait fermer de Lourdes à la fois sur l'extérieur, et il faut l'ouvrir, et les choses ont démarré dans ce sens, et à mon avis, il faut vraiment les continuer à notre avis. Et puis, bien sûr, un positionnement aussi de fermer. Donc, nous avons identifié effectivement cette ville de Lourdes éclatée en quelque sorte, avec aujourd'hui, c'est la lecture urbaine, d'où la nécessité de construire d'ores et déjà, et on le verra dans les pistes, un travail sur cette urbanisation ou cette réflexion urbaine de Lourdes, donc une ville historique avec quelques aménités. Une ville hôtelière, une ville plus sanctuaire, là je n'ai pas le pluriel, c'est bien, et une ville donc de la politique de la ville et des quartiers. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les échanges sur ces différents espaces ont été compliqués et il est, nous semble-t-il, important maintenant de travailler sur la liaison, la cohésion, et c'est le projet, Madame le maire, et, que vous avez autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'on observe par rapport à ça? On observe aussi une dégradation multisectorielle de cette ville. D'abord, c'est pas propre à Lourdes là non plus, mais enfin c'est marqué, une population vieillissante sur Lourdes. Deuxième élément, on a une aggravation des écarts. L'aggravation des écarts entre les revenus participe aussi de cette déclinaison de l'activité et notamment la problématique des saisonniers posée. Et donc derrière, le fléchissement de l'emploi, aussi bien dans les emplois publics, mais aussi chez les saisonniers. Un parc de logements qui est marqué par une vacance à l'augmentation, et donc là aussi, des approches à régler en termes de mise en adéquation de l'offre et du besoin. Le parc hôtelier, bien sûr, c'est ce qui a peut-être marqué au départ la déclinaison de façon très concrète. C'est effectivement à la fois un travail de prise en compte avec beaucoup de montées en charge, montées en gamme dans des rénovations d'hôtels, et parallèlement à ça, 23 fermetures d'hôtels, et moi je ne parierai pas aujourd'hui que les choses soient ainsi achevées. Ensuite, une baisse de fréquentation. Baisse de fréquentation, c'est vrai aussi la question de la religiosité qui est posée, mais aussi le changement du profil du pèlerin. Alors que nous avons aujourd'hui des pèlerins qui venaient à Lourdes il y a 20 ans, il y a 30 ans, et ceux qui viennent aujourd'hui, ben, ils ont 20 ans ou 30 ans de plus. Et donc, ce qui avait constitué cette dynamique particulière aujourd'hui, ben, elle s'érode au regard aussi du vieillissement de la fréquentation par les pèlerins. Et puis, avec tout ça, la ville qui elle, est dans une situation financière qu'on qualifiera de tendue, liée là aussi au ralentissement de l'activité, mais on commence à voir, ça n'est pas terminé, une démarche de redressement. Ça va être compliqué, notamment parce que le contexte national n'est pas très, très favorable. Les collectivités territoriales doivent participer au redressement des comptes publics, même si on a atténué un petit peu. En portant sur 2 ans l'effort qui devait être fait sur 1 an, somme toute, on ne pourra pas, comme on l'a vu dans le passé au niveau de nos collectivités territoriales, compter sur une croissance permanente des transferts financiers d'État. Donc, c'est un vrai problème, mais il faut bien sûr que l'on fasse avec. Alors, bien sûr, face à ce constat qui est très, très réjouissant, on pourrait se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut faire réactiver des leviers. Parce qu'on a véritablement tout à fait plein de raisons de croire au redressement de la vie de l'eau. Pourquoi? Parce que d'abord, et ça nous paraît essentiel, mais il va falloir le démontrer. Nous, quand nous avons eu des rencontres bilatérales avec les différents acteurs, ce que nous avons noté, c'est effectivement qu'il y avait de la part de l'ensemble des acteurs. Pas simplement de l'État, de des collectivités, des socioprofessionnels, du monde associatif, des commerçants, mais il y avait réellement la prise de conscience de la situation dans laquelle on se trouvait. Pourquoi? Parce que cette situation, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, il y avait quelques prémices, et peut-être d'ailleurs, est-il dommage, qu'au moment où les prémices sont apparues, ben, on n'ait pas pensé que les choses étaient structurelles. Je crois que la perception, ça a été que c'était conjoncturel. Nous, nous affirmons, aujourd'hui, ici, peut-être à tort, mais dans tous les cas, c'est notre conviction que le problème de décroissance est un problème qui est structurel. Et donc, s'il est structurel, ça veut dire que pour y remédier, il faut du temps. Quand un problème est conjoncturel, on règle le problème conjoncturel et puis ça démarre. Quand on est sur un problème structurel, ça veut dire que ce sont les fondamentaux qu'il faut redéfinir. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, je dirais bien sûr que, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que les acteurs ne peuvent pas se retourner vers la ville ou vers l'État en disant, ben, la ville et l'État. Certes, la ville et l'État engagent des choses, font des choses, mais si les autres acteurs ne font pas de leur côté des efforts aussi en termes de dynamique, à ce moment-là, je crois que les acteurs publics, ben, tout ce qu'ils pourront faire n'avancera pas. Donc moi, je vous invite véritablement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que je vous dirai des choses que je ne dirai pas peut-être si j'avais été mandaté financièrement pour le faire. On a cette chance, nous, d'être là. On l'a volontairement souhaité, de façon tout à fait bénévole, ce qui nous permet cette liberté de vous dire les choses. Et donc, nous vous disons aujourd'hui, attention, il faut faire des efforts parce que quand on se balade de la grotte et les vitrines, ça ne va pas, parce qu'il y a des hôtels sur lesquels ça ne va pas, parce qu'il y a des sens de circulation sur lesquels ça ne va pas. Alors bien sûr, quand on va les remettre en question, ça va peut-être à un moment embêter un tel ou un tel, mais si on n'est pas dans un processus global et collectif, on y arrivera pas. Voilà, nous c'est notre conviction. Et donc la volonté de travailler ensemble, il ne faut pas qu'elle reste au niveau des intentions, mais il faut maintenant qu'elle se traduise dans l'action et qu'on passe à elle. Voilà, nous, ce qui nous paraît essentiel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Lourde, vous savez, il y a plein de villes qui essaient de trouver une marque. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing territorial. Vous avez essayé de dire, ma ville, c'est une marque. Regardez ce qui se passe de Toulouse, c'est Sauve-Toulouse. Sauve-Toulouse, ça ne marche pas. Il n'y a pas de marque. La seule marque que Toulouse pouvait avoir, c'est de dire, il y a des avions. Donc, c'est peut-être là qu'il faut construire la marque. Mais Lourdes est à la marque. Comme Cannes a la marque par le festival, Lourdes a sa marque. Donc Lourdes est effectivement une notoriété en tant que telle. Même si effectivement cette notoriété, aujourd'hui, elle est plus forte en termes d'image positive à l'international qu'au plan national. Donc ça veut dire que cette marque, il faut aussi, aujourd'hui, peut-être la faire un peu plus briller. Parce que on sent effectivement qu'elle est parfois un peu terne, notamment au plan national. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est d'observer qu'à l'extérieur, la marque, elle brille toujours. Donc il y a des choses à faire de ce point de vue. Ensuite, c'est vrai que des perspectives de diversification existent. Vous êtes, j'allais dire, sur un territoire pays, alors que c'est normal, mais je dis oui. Vous rendez compte que vous avez à la fois Lourdes dans son village et derrière, puis on est venu ce matin, donc l'arrivée de Toulouse, je peux vous dire que quand on arrive dans ce territoire, et qu'on voit ces paysages, et qu'on voit ces Pyrénées qui sont là, et vous êtes la porte des Pyrénées, on se dit, mais attends, c'est ce territoire-là qu'il faut valoriser. C'est tout ce territoire. Et là, il y a des choses à construire autour de Lourdes et des vallées, autour de tout ce qui s'est fait. Le conseil départemental a commencé à prendre conscience que la dynamique touristique, il fallait mettre Lourdes. Et donc, voilà, c'est un pas qui paraît important. Un autre élément important, et je ne sais plus où ils sont, ah si, elles sont là, c'est que la paix et dépôt et conciliation a un véritable intérêt pour la ville de Lourdes. D'abord, elles sont deux là ce matin, ça démontre effectivement l'intérêt. Ça veut dire que la Caisse des dépôts est prête à accompagner un certain nombre de choses. Alors qu'au-delà de l'État, la Caisse des dépôts est prête à dire, ben, si vous êtes sur des processus de rénovation patrimoniale, si vous êtes sur des processus d'études nécessaires sur les problèmes autour du développement industriel dans une perspective, évidemment, pas de grande industrie, mais d'industrie complémentaire, la Caisse des dépôts dit, nous, on est là. Et ça, elle n'est pas partout, donc c'est quand même l'élément important. Ensuite, il y a des atouts culturels. Le château-musée, tout à l'heure, j'en parlerai un petit peu, mais on a quelque chose qui est important sur ce château-musée, la fréquentation, sans faire grand-chose, est tout de même assez significative. Le pic du Cher, le lac, bref, tout un tas de processus intéressants. Et puis, dans la régression de la fréquentation, on a une courbe qui, elle, est en progression. La courbe qui est en progression dans la régression, c'est les jeunes. Ce qui veut dire que quand on regarde la substitution qui est en train de s'opérer sur le pèlerin lourdais, on a une diminution d'un pèlerin plutôt âgé et une montée en croissance des pèlerins plus jeunes. Ça aussi, c'est un atout. Parce que la pratique de, pardonnez-moi, du produit lourd ne sera pas la même en fonction de l'âge de ses clients. Donc à partir de tout ça, je le synthétiserai de cette façon-là, certes, des difficultés dans un contexte national compliqué, dans un contexte économique très difficile, mais avec des atouts. Et donc à partir de là, un certain nombre de pistes. Alors, là-dessus, je continue peut-être à être un peu désagréable, mais il est important que chacun prenne conscience de l'inertie naturelle qu'il y a entre la décision, une action et les effets de cette action. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes face à une problématique structurelle. Face à cette problématique structurelle, c'est les fondamentaux qu'il faut revoir. Quand on revoit les fondamentaux, les effets sont des effets à moyen, voire à long terme. J'ai pris ici un exemple. Et donc, ça ne veut pas dire, surtout, il ne faut rien faire, au contraire. Ça veut dire qu'il faut commencer vite. Mais en ayant conscience, même en commençant vite, on n'aura pas les résultats immédiats. Moi, je vais vous donner, je l'ai pris simplement pour l'illustrer. Puisqu'il y a une idée ici de dire on pourrait faire de Lourdes une ville de congrès. Je prends l'exemple d'une décision qui a été prise à Toulouse de faire un parc des expositions avec un centre de convention. Je ne peux en parler parce que j'étais à l'origine. L'intention, c'est 2005-2006. La livraison, ce sera plutôt 2020-2021. C'est-à-dire qu'on a 14 ans entre une intention et une réalisation. Et les effets de ce dispositif, ce sera 2027-2028. Donc il faut aussi avoir conscience que pendant cette période-là, il faut que le territoire continue à fonctionner. Alors ça ne veut pas dire pour autant, on le verra, il n'y a pas des actions immédiates à enclencher. Mais que les actions structurantes ont des effets qui ont des effets retardateurs. Un projet de rénovation urbaine, ça ne se fait pas moins de 10 ans. On est effectivement sur des opérations qui sont des opérations à effet assez lointain. Donc, il va falloir privilégier des actions qui peuvent avoir un effet plus court, tout en construisant la modification structurelle. C'est ça, me semble-t-il, qui nous paraît important. Donc, pour nous, ça signifie effectivement qu'il faut accepter que pendant une période, on continue à être sur une phase qui va être une phase de décroissance. L'important, c'est de pouvoir rebondir. Et ce qu'il faut préparer, c'est le rebond. Mais si je devais l'illustrer à travers un graphique, je dirais on va continuer. Et il faut ralentir le fléchissement de la pente et préparer une autre dynamique pour avoir après le pente qui remonte. Mais ça me paraît aussi quelque chose qu'il faut accepter en tant qu'acteur, de dire on n'a pas d'effet immédiat d'une action. Si demain Lourdes décide de faire un palais des congrès nouveau, eh bien le palais des congrès de la Boîte aura le temps de le réaliser, le temps que l'image du palais des congrès soit effectivement posée, et après, un expert en la matière de la région pourrait dire effectivement que ces opérations sont des opérations qui s'inscrivent dans le temps. Alors bien sûr, face à cela, nous on dit on va pas et on s'est refusé à vous proposer, comme on aurait pu le faire, un catalogue d'actions qui peuvent faire très très joli dans un rapport, mais dont la portée opérationnelle n'est pas pertinente. Donc on a préféré nous dire, voilà, nous on vous propose un certain nombre de pistes. Il y a des choses qu'il faut faire rapidement. Il y a des choses qu'il faut construire, mais dont il faut avoir conscience que les effets seront des effets différents. Ça aussi, je vais y insister parce que, croyez-moi, au niveau des réunions que nous avons faites dans le cadre du comité des sages, nous avons eu des débats longs et complexes sur cette question. Pour arriver à se retrouver là-dessus, parce que vous savez, les sages, c'est le volet culturel, le volet sociétal, le volet économique, le volet touristique, c'est tout ça qu'on a essayé de croiser. Donc à partir de là, la première chose, pour nous-mêmes, c'est un préalable à toute chose, c'est que maintenant soit confirmée la volonté de tous les acteurs aillent dans le même sens. Il faut donc qu'il y ait un projet de territoire et que ce projet de territoire soit partagé. D'abord, on vous a mis un diagnostic. Est-ce que tous les acteurs partagent le diagnostic qu'on vient de vous lire? Nous, on n'aura pas, on ne sera pas fâchés si certains disent ce diagnostic, ce n'est pas forcément celui-là. Je pense que le plus important, c'est que sur la base de ce qu'on vous dit, tous les acteurs disent « Ok, on partage ou on ne partage pas, là on amende, là on modifie. » Et puis, derrière ça, enclencher effectivement le projet. Alors on a eu beaucoup de débats et on se rend compte que pour un projet, c'est un récit. ce qui vous appartient de faire, c'est de raconter l'histoire que vous voulez pour Lourdes et pour ce territoire. Il faut raconter cette histoire. Et pour raconter une histoire, il faut avoir quelque chose de fondateur. Ce qu'on pourrait appeler l'ADN d'un territoire. Les experts appellent ça le capital social. Bien, Lourdes a effectivement quelque chose qui semble pouvoir fédérer. C'est effectivement ce qui se passe autour de Bernadette. Et donc l'idée, ce serait de dire, regardons Bernadette, mais pas simplement dans sa dimension spirituelle, mais aussi dans la dimension de ce qu'elle peut représenter. Et essayons autour de ça de construire un projet. Parce que bien sûr, il serait complètement déplacé, décalé, de dire on va relancer Lourdes sans le sentir, sans Bernadette. Lourdes, bien sûr, il y a une décroissance, il y a une déclinaison, mais c'est quand même ce qui fait la dynamique qui est à Lourdes. C'est à partir de là qu'on peut ouvrir, c'est à partir de là qu'on peut élargir. Mais il faut ramener les gens autour de cette histoire. Donc on se dit, mais ce serait peut-être intéressant que le projet de Lourdes trouve un ancrage autour de ça. Et on se rend compte, j'ai regardé, il y a 6 longs métrages, 6 films qui ont été faits sur Bernadette. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui intéresse. C'est une histoire à laquelle le public adhère. Donc c'est de se dire ça. Alors, nous on a entendu, je ne sais pas si on a entendu ce qu'il faut ou pas ce qu'il faut, mais on a entendu que des initiatives privées pourraient être enclenchées autour de la scénarisation, de la linéarisation de l'histoire de Bernadette dans un processus qui ne serait pas celui de construire un film, mais d'avoir une représentation sur place. On ne peut pas s'opposer à l'initiative privée. En revanche, si effectivement elle s'avérait, il faut que tous les acteurs capitalisent sur ça. Ne vous laissez pas voler la rue. Moi, je vous le dis comme je le ressens. Et je parle toujours pareil par moment. Quand je dis je, excusez-moi, c'est vous qui me dites ça. Donc, à partir de là, un certain nombre d'initiatives. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est effectivement d'enclencher ce qu'on appelle une rénovation urbaine avec plusieurs éléments, plusieurs éléments. D'abord, effectivement, donner des signaux autour d'opérations qui ont commencé à être engagées au niveau de la ville, mais qui nous semblent devoir être poursuivies. La signalétique, le règlement des enseignes. Et puis, il y a quelque chose qui nous paraît important. Il y a un patrimoine lourdais, patrimoine public. Ce patrimoine, il faut le mettre en valeur. Ça, ce sont des choses qui nous paraissent devoir être enclenchées rapidement. Parce que ça a des effets en termes de modification d'image. Et donc, cette image, elle est là, elle est aujourd'hui un peu floue, un peu dégradée. Il faut faire en sorte de la reconstruire. Deuxième chose, il nous paraît important, et y compris dans l'écriture du projet, d'aller vers les habitants. Lourdes, ça n'est pas la ville des pèlerins, c'est la ville des Lourdes. Donc, il ne faut pas oublier les Lourdaises et les Lourdais dans ce dispositif, même si effectivement les pèlerins viennent. S'interroger aussi sur ce que vont devenir ces hôtels qui sont ces hôtels en fermeture. Vous le savez, on a dans d'autres sites des fermetures d'activités, qu'on appelle des friches commerciales ou industrielles, qui posent des difficultés. Regardez le risque sur les hôtels, le risque effectivement de dégradation, le risque de squat, le risque de lieu, etc. Et des risques sur le risque. Donc il est intéressant et important de s'interroger. Et puis, essayer, là aussi, par rapport au logement, d'orienter, même si c'est long, une politique de modification du peuplement. Ce que j'appelle modification du peuplement, c'est effectivement. Et c'est possible d'essayer de faire venir un peu plus de population jeune. Donc, ce qui nous semble important, et là je me retourne vers les professionnels de l'hôtellerie, c'est notre proposition, après tout, elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est eux qui le diront, c'est de dire, face à cette décroissance, face aussi à ce que représentent les investissements de mise à niveau du parc hôtelier, ben, effectivement, il y a une possibilité, une probabilité même, que tous les hôtels ne puissent pas être là, en capacité de cette mise à l'île. Et donc, il nous paraît essentiel de ne pas perdre, malgré tout ce qui fait la spécificité de Lourdes, c'est sa capacité hôtelière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, on n'a pas une surcapacité? Donc, ce qui me semble important, c'est d'engager une réflexion sur ce que pourrait être, je dirais, le seuil minimum de chambres au-dessous duquel il serait dangereux d'arriver. Et ça, nous ne sommes pas des pros. Mais les professionnels de l'hôtellerie savent ça. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut effectivement aller, en se disant aussi, autour de ça, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies particulières autour d'une réorientation des publics? Il n'y a pas de stratégie de niche. Et on voit quelques hôtels qui pratiquent des stratégies de niche, en s'adressant à tel type de clientèle. Et peut-être que cette diversification de la capacité ou de l'accueil hôtelier peut se faire par là. Et ça veut dire que les hôteliers doivent être effectivement être dans un dispositif qui est un dispositif où ils travaillent ensemble. Quand c'est un problème qui est un problème qui, de toute manière, impactera à un moment tous les hôtels. Et donc, à partir de là, je pense qu'il peut y avoir, au sein des professionnels, et ils ont démontré que c'était des professionnels depuis le temps, un travail pour dire, regardons un petit peu comment on peut travailler là-dessus. Et puis, derrière ça, regardez comment, éventuellement, on pourrait avoir des financements adaptés à la saisonnalité, parce que là aussi, il y a des problèmes d'exploitation qui peuvent se poser dans les hôtels. C'est ce que nous dit la Chambre de commerce. Il y a aussi, pourquoi pas, à construire avec les banques, mais puis avec la Caisse, elle est là. Pourquoi pas des crédits de, normes, de mise aux normes qui seraient adaptés dans le temps. Voilà un petit peu l'invitation qui est faite aux professionnels de l'hôtellerie. De dire, ça, il ne faut pas freiner, parce que comment on va continuer à avoir des choses. Une autre aussi proposition à l'intention là, du commerce. Le commerce, il faut peut-être aussi réimaginer les choses. Lorsque l'on les interroge, on s'aperçoit que le panier moyen est quand même relativement bas. Et que finalement, ce qui a fait l'activité, c'est le quantitatif. On a été sur des masses. Les masses ont permis effectivement de fonctionner même avec un panier moyen qui n'était pas très important. On avait la quantité qui permettait effectivement de pallier la faiblesse du panier moyen. Et donc il y a peut-être là aussi, mais encore une fois, nous ne sommes pas des professionnels, nous observons les choses, certes des experts, puisque les collègues qui ont fait ces propositions ont travaillé sur ces questions-là, c'est de dire, ben, peut-être, qu'est-ce qui fait qu'on peut changer le panier moyen? C'est peut-être aussi une autre façon d'aborder, plutôt que d'être dans un processus j'expose, j'apprends, je vends, d'être dans une autre démarche. Peut-être aussi de relooker un petit peu les choses. Et pourquoi pas d'avoir d'autres connexions avec le Saint-Père. Là aussi, l'invitation, c'est de dire, on dit à la ville, travailler sur la rénovation patrimoniale, travailler sur... Mais on dit aux hôteliers de travailler sur ces questions, et on dit aux commerçants de travailler là-dessus. Et là, on peut avoir aussi des démarches assez immédiates. Bien sûr qu'après, on peut travailler sur la restructuration à moyen terme de ce que peut être ce commerce via les processus électroniques, etc. Mais ça, ça prendra du temps. Relouter, retravailler, et puis pourquoi pas, la Chambre de commerce est prête, formée, aujourd'hui. Et ils sont prêts à engager des axes de formation pour ça, pour aller vers une autre façon d'aborder le commerce. Puis ensuite, on se retourne vers le sanctuaire. Le sanctuaire, si vous voulez, l'observation qu'on a fait, c'est que, bon, on l'a appelé administré, peu importe le terme qu'on retient, mais c'est un travail autour d'une modification de la prise en charge du pèlerin. Mais en même temps, vous regardez comment les choses sont passées, et on a travaillé là-dessus, bien sûr, avec les représentants des sanctuaires, le pèlerin est pris en charge. Et donc, il arrive, et il est pris en charge. Pourquoi? Parce qu'historiquement, le pèlerin est venu avec le malade. Et donc, il fallait organiser ça autour de ce dispositif. Et donc, on arrive, on est pris en charge, on est accompagné tout le long. Donc, on a une démarche très administrative. Or aujourd'hui, ce n'est pas forcément la demande. Ou dans tous les cas, ça n'est pas que celle-là. Mais la demande, elle bouge par rapport à ça. Regardez aujourd'hui les taux de remplissage, par exemple, de la partie médicalisée, hospitalière. Ça chute. Donc ça veut dire qu'il faut aussi intéresser à, et nous disons au Saint-Père, créer des lieux de spiritualité et aussi développer une capacité de visite plus autonome. Parce que les groupes, qui sont des mini-groupes aujourd'hui, qui ne sont pas des pèlerinages organisés par les diocèses, peut-être qu'ils existaient, où le diocèse a donné tout le monde, qui venait à la fois au sanctuaire et puis après à l'excursion. Avec donc à partir de là, 3 jours, 4 jours sur place, et donc effectivement les durées de séjour qui étaient augmentées. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que, et nous avons un écho positif de la part du sanctuaire, sur ces démarches-là à engager, et donc voir aussi quels sont les objectifs. Pourquoi j'ai mis ici voir les objectifs des marcheurs de Saint-Jacques ? C'est que quand on regarde quelles sont les raisons pour lesquelles les pèlerins qui font le pèlerinage de Saint-Jacques le font, la première raison, c'est simplement par rapport à des interrogations spirituelles, mais pas religieuses. Donc c'est effectivement de se dire, il y a ça. La deuxième raison, c'est parce que c'est aussi un moment où on peut se retrouver avec son corps. Donc, il y a aussi volet physique. Ensuite, il y a la découverte d'un patrimoine. Et l'effet religieux en tant que tel ne vient qu'en quatrième position. C'est assez intéressant. Ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, le premier volet, c'est la spiritualité. On a un lieu, là, autour du sanctuaire, sur lequel on peut ouvrir cette démarche autour de la spiritualité, et je crois. Il y a là des choses à faire. On a rencontré aussi des anthropologues des religions qui nous disent la même chose. On a 2 chercheurs à Toulouse qui travaillent sur ces questions. On est allé voir, on a interrogé. Et qui nous ont dit, effectivement, ce qui se passe à Lourdes, ça se passe sur tous les lieux du surnaturel. Il n'y a pas une exception. Et ce qui est recherché autour du surnaturel, c'est la spiritualité. Donc il y a là quelque chose à faire. Ensuite, bien sûr... interroger, donc là aussi, hein, le devenir de la mutation des espaces malades au sein du sanctuaire, renégocier les offres avec les opérateurs, et puis là, le travail qui doit être fait en synergie là aussi, c'est l'adaptation du calendrier des pèlerinages. Alors, quand on dit ça, il faut véritablement être comme nous, totalement extérieur, pour aussi écrire, il faudrait adapter le calendrier des pèlerinages. Pourtant, ça nous paraît essentiel. Donc nous les aidons, sans état d'âme. Et puis, bien sûr, relancer le petit musée au fait. Ça peut être fait relativement rapidement. Ce que je viens de dire pourrait être enclenché assez vite dès lors que, dans l'écriture du projet, on pourrait dire, on a écrit le projet de l'Ordre de Saint. La ville a commencé à faire des choses et tout continue. Deuxièmement, après, c'est effectivement... mais peut-être qu'on aura l'occasion des questions, des échanges. Moi aussi, sur le volet culturel, je te laisse dire des choses. Je veux dire, sur la relance.